Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le retour annoncé de Moussa Dadis Camara. Vous êtes près de 700 sur la page Facebook de l'émission. Beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires sur ce retour annoncé, puisque l'ancien putschiste guinéen qui est exilé au Burkina Faso depuis maintenant 5 ans veut se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il y a quelques jours, en exclusivité sur RFI, il a d'ailleurs précisé qu'il sera de retour à Conakry entre le 20 et le 25 juin, et toute la question est de savoir s'il pourra réellement se présenter à la présidentielle, car l'ancien chef de la junte est notamment cité dans le massacre en 2009 d'au moins 157 personnes qui s'étaient rassemblées pacifiquement dans un stade de la capitale. Alors que vous inspire donc le retour de Moussa Dadis Camara? Quelles peuvent être évidemment les conséquences politiques en Guinée? Et dites-nous si l'ancien putschiste devra rendre des comptes à la justice. On va en parler ensemble, ce sera dans 30 minutes sur l'antenne. 33 9 693 693 70, les réseaux sociaux évidemment, et la page officielle de l'émission, la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter certains sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Beaucoup de questions sur la Libye qui sombre chaque semaine encore un peu plus dans le chaos. Bonjour Jérémy.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Lomé au Togo et vous avez des questions, vous, sur le dialogue interlibyen.
Oui. Le Parlement libyen reconnu a refusé l'accord de l'ONU suite aux discussions en début de semaine pour remédier à la situation en Libye. À cet effet, j'ai deux questions. La première, pourquoi le Parlement refuse l'accord de l'ONU? Et la deuxième, quel point de l'accord conteste-t-il?
Alors, c'est vrai que depuis un an, la Libye se déchire entre deux pouvoirs politiques, deux gouvernements, deux parlements. Du coup, pour mettre fin à cette violence, eh bien, l'ONU a entamé de nouveaux dialogues, de nouveaux pourparlers interlibyens. L'objectif étant, rappelons-le, de former un gouvernement d'union nationale. Bonjour Moncef Djarizi.
Oui, bonjour monsieur. Merci. Monsieur Djaziri,
pardon, excusez-moi d'avoir écorché votre nom de famille. Vous êtes spécialiste de la Libye, professeur émérite de sciences politiques à l'université de Lausanne. Et la question de Jérémy est d'autant plus importante qu'effectivement, le Parlement qui est reconnu par la communauté internationale, le Parlement qui siège à Tobrouk, a rejeté la proposition de sortie de crise de l'ONU. Pour quelle raison ?
Alors, il y a plusieurs raisons, si vous voulez. La première, c'est qu'il considère qu'il est le seul légitime et qu'il est le seul à représenter la Libye et que donc l'accord relégitime en quelque sorte le Congrès général à Tripoli qui n'a plus aucune légitimité depuis juin 2014. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'accord est rejeté par Tobrouk parce qu'on considère que au fond il donne de la légitimité à des milices armées qui n'ont pas de légitimité et que d'une certaine manière finalement il donne le droit à des forces qui ne devraient pas avoir la parole dans cet accord.
C'est quand même surprenant que les Nations Unies ménagent finalement le Parlement qui n'est pas reconnu par la communauté internationale.
Oui, c'est vraiment le problème le plus important, c'est-à-dire que la mission des Nations Unies et en particulier le représentant Monsieur Leon, en effet, s'acharne à vouloir mettre sur le même pied d'égalité, en quelque sorte, deux pouvoirs qui en réalité ne sont pas sur un pied d'égalité puisque la communauté internationale elle-même ne reconnaît qu'un seul pouvoir, celui de Tobrouk. Vous voyez, donc il y a là un problème sérieux qui est celui de la stratégie même des Nations Unies et de la mission des Nations Unies, en particulier celle de Monsieur Leon, si vous voulez.
Ouais. Ça signifie que le Parlement de Tobrouk aujourd'hui a suspendu sa participation au dialogue interlibyen ou les négociations se poursuivent?
Non, il a suspendu, c'est-à-dire il considère que le quatrième accord, la quatrième version de l'accord, s'éloigne largement et beaucoup trop de ce qui a été convenu dans la première, la deuxième et la troisième version, et qu'il considère qu'il faut repenser, qu'il faut une cinquième version de cet accord. Or, vous savez que le représentant de l'ONU considère que la quatrième est la dernière version, et il espère d'ailleurs qu'un accord soit conclu avant le Ramadan, ce qui paraît absolument impossible.
Oui, puisque le Ramadan, c'est le 17 juin, il commence le 17 juin.
Le 18 juin, nous sommes le 15, donc c'est le problème. Je crois que c'est vraiment l'échec de la mission des Nations Unies, et en particulier la stratégie de M. Léon qui est en cause. On n'ose pas le dire comme cela, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra poser la question de cette manière-là.
Ouais, en tout cas, c'est l'impasse en Libye, et en attendant, l'organisation de l'État islamique poursuit sa progression. On a justement une question qui nous vient de Grande-Bretagne. Bonjour Kevin.
Bonjour Juan, bonjour tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute.
Oui, la question est la suivante. En cas d'accord pour un gouvernement d'union nationale, la Libye aura-t-elle les moyens militaires et l'autorité politique pour vaincre les groupes armés, notamment celui d'Daesh?
Daesh, effectivement. Monsef Jaziri, effectivement, on voit bien que l'absence d'État central en Libye permet à l'organisation de l'État islamique de gagner du terrain. Est-ce qu'en imaginant qu'un gouvernement d'union nationale puisse être formé, est-ce que ça suffira à barrer la route aux djihadistes?
Alors, d'abord, il est très peu probable qu'un accord soit possible. Mais à supposer qu'un accord soit possible, un gouvernement d'union nationale n'aura pas les moyens, ni militaires, ni politiques, d'instaurer la paix en Libye. Donc, le problème, il est là, si vous voulez. C'est-à-dire que même un gouvernement qui résulterait d'un accord n'aurait pas les moyens militaires, n'aurait pas la légitimité politique pour asseoir son autorité et pacifier le pays. Parce que il faut s'imaginer que le pays est maintenant il est divisé en différentes factions, si vous voulez, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Centre, les islamistes et les extrémistes, Daesh, etc. Il y a trop de forces, si vous voulez, ayant chacune de ses propres équipements militaires, trop de forces qui sont sur le terrain, et aucun gouvernement actuellement n'est en mesure, si vous voulez, de résoudre et d'asseoir son autorité, de pacifier le pays. Or, la pacification du pays est la condition sine qua non de toute solution politique, si vous voulez. Ouais. Et pas l'inverse. Ouais. C'est ça le problème de l'impasse de l'ONU.
Monsef Jaziri, lorsque le gouvernement et le Parlement, reconnus par la communauté internationale, réclament à l'ONU la levée de l'embargo, justement pour avoir des armes et pouvoir contrer les djihadistes de l'organisation de l'État islamique, est-ce que ça vous semble une bonne idée que de lever cet embargo?
C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable de renforcer le seul noyau d'armée nationale qui existe actuellement. C'est celui de Tobrouk, si vous voulez. C'est la seule manière d'aller vers la pacification et le développement d'une armée nationale libyenne qui est la condition nécessaire pour la pacification de ce pays. Et donc, le développement de cette armée implique la levée d'embargo pour pouvoir, pour permettre à cette armée de s'équiper, si vous voulez. Et c'est là où il y a l'impasse du côté de l'ONU, qui ne veut pas lever l'embargo aussi longtemps que un gouvernement n'est pas institué. Or, un gouvernement institué ne résoudrait pas le problème qui est le problème de la pacification de la Libye, et cette pacification suppose l'existence d'une armée équipée et armée par la communauté internationale.
Allez, encore une dernière question sur le chaos libyen. Nous avons Pierre-Étienne qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonjour Pierre-Étienne.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Alors, suite aux réunions qui se tiennent actuellement au Maroc pour tenter de trouver des accords sur la crise libyenne, y a-t-il un risque de partition de la Libye?
à un risque de partition de la Libye. La semaine dernière, Moncef Djaziri, en marge du G7, le ministre allemand des Affaires étrangères n'a pas caché, lui, ses craintes de voir la Libye imploser, se désintégrer, hein, pour reprendre ses propos. Qu'en pensez-vous ?
Ben écoutez, c'est tout à fait juste, si vous voulez. En fait, la position allemande va dans le sens simplement de la reconnaissance d'une réalité. La réalité est la suivante, nous avons un pays qui est divisé, déchiré, si vous voulez, entre l'Est et l'Ouest, entre les républicains et les islamistes, entre les islamistes et Daesh, entre les islamistes et les berbères, si vous voulez. Le pays est profondément déchiré, si vous voulez. Et il y a, sérieusement, il y a des sérieux risque, si vous voulez, d'implosion du pays, de désagrégation du pays, mais il y a aussi un risque de partition. L'Est, par exemple, qui pourrait parfaitement faire cavalier seul. L'Ouest pourrait le faire également. Les Berbères pourraient faire cavalier seul. Bref, nous sommes dans une situation où il y a un risque sérieux d'implosion et de désagrégation de la Libye.
Merci beaucoup, Moncef Djaziri, d'avoir été avec nous en direct de Lausanne, spécialiste de la Libye. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de sciences politiques à l'université de Lausanne. Il est 10h22 ici à Paris. Vous nous appelez, toutes vos questions nous intéressent. Surtout, n'hésitez pas et surtout, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. D'ailleurs, on a besoin de vos questions avant de commencer l'émission pour contacter, évidemment, les experts, les journalistes spécialisés ici au sein de la rédaction. Contactez nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Et n'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat, et vous êtes nombreux vraiment au standard à souhaiter réagir au retour annoncé de l'ancien putschiste guinéen Moussa Dadis Camara. Il doit théoriquement retourner en Guinée au plus tard dans les 10 prochains jours pour faire acte de candidature. Et oui, il entend bien briguer la magistrature suprême en octobre prochain, ce qui suscite évidemment un grand débat sur place. 33 9 693 693 70. Des questions concernant la lutte contre Boko Haram. Priorité numéro un, vous le savez, du nouveau président nigérian. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour Juan,
merci
bonjour à tous
d'être avec nous, Binta, journaliste au service Afrique d'RFI. Nous accueillons Salissou. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez du Cameroun. On vous écoute.
Oui, je suis Balmayo.
Balmayo, effectivement.
Oui. Oui. Je voudrais savoir, pour sa première sortie hors du Nigeria, le président Buhari s'est rendu au Niger et au Tchad avant de prendre part au G7 en Allemagne. Ma question est la suivante. Pourquoi ne s'est-il pas rendu au Cameroun ?
Ah, bonne question. Peut-être la question qui fâche. Binta Diagne, c'est vrai que moins d'une semaine après son investiture, le nouveau président nigérian a réservé ses premières visites à l'étranger au Niger et au Tchad, qui sont deux pays voisins qui participent à la lutte contre Boko Haram. En revanche, il ne s'est pas rendu, pas encore, à Yaoundé. Pourtant, le Cameroun participe également à l'opération militaire régionale. Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre le Cameroun et le Nigeria ?
Alors, on va pas remonter très 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 loin pour donner des raisons simples à ces deux absences. En fait, il y a eu une série de faits qui se sont produits ces derniers mois. Mouhamadou Bouhari, vous vous rappelez, il a élu fin mars, début avril, à la tête du Nigeria. Et immédiatement, avant même qu'il ne soit investi à la tête de son pays, eh bien, il entame des consultations diplomatiques avec les pays voisins pour lutter contre Boko Haram, qui est un peu son dossier phare. Alors, il se rend d'abord, il reçoit Mahamadou Issoufou, le président du Niger. Il reçoit également Idriss Déby, le président du Tchad. Mais, me dit-on, côté nigérian, il n'a pas de réponse du côté camerounais. Le Cameroun estime que il y a une sorte de parallélisme des formes. Il faut attendre que Mouhamadou Bouhari soit investi président pour parler d'égal à égal, donc entre Paul Biya et Mouhamadou Bouhari. Et donc, du coup, il y a dès le début, dans ce dossier, une sorte d'absence du Cameroun au Nigeria. Et du coup, le Nigeria, lui, il continue son travail, il veut mener la lutte contre Boko Haram, il continue tout son travail diplomatique, continue à rencontrer ses voisins, jusqu'au moment de l'investiture, le 29 mai dernier.
Et là, le président Paul Biya ne fait pas le déplacement pour l'investiture du nouveau président nigérian.
Oui, et alors même que énormément de chefs d'État de la sous-région sont attendus et sont présents, le président Paul Biya envoie un vice-premier ministre. Alors, du côté nigérian, on vous dit, c'est un affront, et c'est un manque de considération totale. Et du coup, ça contribue à corser un peu ces relations entre les deux pays. Vient ensuite la réunion sur Boko Haram, qui a eu lieu la semaine dernière,
en fin de semaine, à Abuja, Nigeria, oui.
Qui a réuni d'abord les chefs d'état-major des armées des pays concernés par la lutte. Mais Paul Biya n'est pas présent au sommet qui conclut un peu cette réunion. Et donc du coup, on observe une sorte d'absence du président camerounais à ces réunions-là. Pendant ce temps-là, le Nigeria, lui, réaffirme sa suprématie, veut reprendre un peu sa place de leader dans la sous-région ouest-africaine. Bouhari, ce jour-là, annonce qu'il va investir près de 100 millions de dollars dans la lutte contre Boko Haram. Le Nigeria a le commandement de cette force mixte, qui réunit le Tchad, le Niger et le Cameroun.
Et le Bénin aussi.
Et le Bénin. Et c'est un commandant nigérian qui va diriger cette force-là. Donc on voit que d'un côté, le Nigeria reprend ses marques sur ce dossier-là, mais en face de lui, il y a un voisin qui a l'air de bouder, plus ou moins, des sortes de relations un peu compliquées, une sorte de défiance des deux côtés.
Enfin, c'était déjà tendu quand même à l'époque de Goodluck Jonathan, puisque Goodluck Jonathan avait à plusieurs reprises refusé de se rendre au Cameroun et de rencontrer le président Paul Biya.
Oui, c'est vrai, il y avait ce précédent-là. Le fait, côté camerounais, on va vous dire que Goodluck Jonathan faisait beaucoup d'annonces, mais il y avait peu de résultats concrets. Et c'est vrai que l'armée camerounaise, qui était déjà sur le terrain, impliquée pour repousser les forces de Boko Haram, se plaignait du manque de réactivité du côté nigérian. Donc il y avait ça en background, mais côté camerounais, on va vous répondre que voilà, le président Paul Biya ne voyage pas. C'est pas dans ses habitudes de se rendre soit aux investitures ou bien aux grandes rencontres internationales. Et donc pour eux, ça leur semble naturel. Il n'y a pas de problème au fait qu'il soit absent à l'investiture de Bouhari. Et par ailleurs, il faut aussi prendre un autre fait en compte, c'est l'image de Bouhari qu'il a au Nigeria, au Cameroun. Côté camerounais, on se rappelle que Bouhari, c'était quand même le général de l'armée qui avait pris le pouvoir dans les années 80 au Nigeria. Et donc, il y a cette image d'homme de poigne qui, à cette époque-là, avait dirigé le pays d'une main de fer et qui s'était prononcé d'une manière assez souverainiste sur la péninsule de Bakassi, qui a fait l'objet d'un long litige entre les deux pays.
Et d'un long contentieux territorial, effectivement, entre le Nigeria et le Cameroun. Merci beaucoup, Binta Diagne, d'être venu nous décrypter les relations particulièrement tendues donc entre Yaoundé et Abuja. La dernière question de ce matin, c'est Mathurin qui nous la pose. Il nous appelle d'Argenteuil, en région parisienne. Bonjour, Mathurin.
Bonjour Juan.
Bienvenue
bonjour
sur l'antenne.
La radio mondiale.
Vous avez des questions concernant le baccalauréat au Congo-Brazzaville?
C'est cela, oui. Donc, je disais, le 5 juin dernier, le bac au Congo-Brazzaville avait été annulé suite à une fuite des matières, ce qui a causé les troubles des émeutes dans la capitale congolaise, Brazzaville, Pointe-Noire ainsi qu'à Dolisy. J'ai deux questions. Voilà. Comment le ministre de l'Enseignement, M. Mampouya, explique-t-il ces fuites des matières? Quelle décision qu'a pris le gouvernement suite à cette annulation du bac? Les responsables seront-ils sanctionnés?
Alors, effectivement, c'est vrai que le gouvernement a décidé d'annuler les épreuves du bac général suite à des fraudes massives, dit-on, et des irrégularités graves, ce qui a donné lieu, vous le disiez, Mathurin, à d'énormes manifestations, la colère de milliers d'élèves qui sont descendus dans la rue à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisy. Loïcia Martial, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à notre auditeur.
Alors expliquez-nous rapidement comment les sujets du bac se sont retrouvés sur Internet.
Bon, c'est peut-être un peu difficile à expliquer Juan. On sait que du 2 au 5 juin, le bac devait avoir lieu. Donc le 5 juin, le dernier jour des épreuves, on a constaté que la plupart des épreuves se sont retrouvées sur la toile. Mais on croit les explications du ministre que nous avons eues le jour de l'annulation du bac même. Donc, il s'agit d'une question des saboteurs. Donc, il y a eu des saboteurs qui ont mis les épreuves sur la toile pour des motivations qu'on ignore. Donc, au moment où nous parlons, le directeur des examens concours, le président du jury et le chef de service bac au niveau du ministère de l'Enseignement sont aux arrêts pour des besoins d'enquête. Donc, bien qu'aux arrêts, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence en attendant un éventuel jugement. Ils vont certainement être jugés et leur responsabilité, s'il est établie, ils risquent de passer une bonne partie de leur vie en prison en Allemagne.
Ouais. Et les épreuves du bac ont été reportées et elles auront lieu le 7 juillet. Merci Loïcia Martial, bonne journée à vous, merci à Mathurin. Reste avec nous tout de suite le journal et on vient dans 10 minutes.